9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bonjour amis de la radio, Maître Serran est ravi d'être parmi vous et ce d'autant plus que c'est le week-end et en règle générale, le week-end, on est un peu plus apaisé. Je n'oublie pas non plus que nous sommes à la veille d'un événement planétaire, la Coupe du Monde. Et oui, le Qatar va être à la fête et je suis sûr, mon cher Philippe, que vous allez suivre de manière extrêmement assidue cet événement. D'ailleurs, je précise pour nos auditeurs qui, par définition, ne vous voient pas, et je rajouterai même heureusement que vous êtes venu avec la panoplie du fan de foot, et ce malgré la fraîcheur du matin, avec votre short qui me semble un peu serré tout de même, et votre maillot de la seule équipe qui, selon les bookmakers, a le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde, l'équipe d'Algérie. Alors je sais, les mauvaises langues diront que Maître Serran est fou puisque l'Algérie n'a pas été qualifiée après ce match de la honte contre le Cameroun. Mais je suis sûr que nous verrons tout de même flotter le drapeau algérien dans les tribunes et ce même si notre équipe ne joue pas. D'ailleurs, il y aura toujours des Algériens à la Coupe du Monde. Benzema, par exemple, notre ballon d'or. Karim Boudia, franco-algérien, qui joue pour le Qatar. Boualem Kouki, né en Algérie, qui joue également pour le Qatar. Je vous l'ai dit, l'Algérien est partout. Mais cette Coupe du Monde, qui n'a pas encore commencé, est quelque peu ternie par des critiques de bien-pensants. Ouais, les stades sont climatisés, c'est pas écolo. Alors, c'est pas écolo peut-être, mais on s'en balayoque. Pour ceux qui sont sur place, ils pourront suivre les matchs dans de bonnes conditions. Vous nous faites un peu chier, en fait, avec l'écologie. Vous emmerdez suffisamment les Français avec ça, alors n'allez pas saouler le Qatar, d'ailleurs. À propos d'écologie, samedi dernier, mon cher Philippe, j'étais sur Paris, dans un véhicule considéré comme incompatible avec les discours débiles qui veulent qu'on se déplace en charrette. Je conduisais tranquillement à Hummer, c'est un 4x4 américain. Je m'arrête devant un café pour une petite collation et là, au bout de quelques minutes, je vois un type verser sur le capot un milkshake et pouffer de rire avec ses camarades. « Pauvre petit bobo, me dis-je, tu n'as manifestement pas correctement calculé les conséquences de cet acte. Car autant, Maître Serran, avocat de son État, est un homme plein d'amour et militant de la paix dans le monde, autant Nico, qui m'accompagnait, est sorti comme un fou furieux. Et avant même que le type ait fini de rire de sa blague pourrie devant ses camarades, il a été pris par sa queue de cheval et s'est retrouvé la face contre le milkshake et invité à lécher ce dernier. Et croyez-moi, quand un type comme Nico t'invite à faire ça, tu comprends vite que tu dois t'exécuter ou tu risques vite de finir tétraplégique. Et là, évidemment, tu as toujours une autre personne qui se prend pour Superman et qui est prêt au péril de sa vie à intervenir pour probablement se faire mousser devant ses copines et ce qui devait arriver arriva avant même qu'il ait eu le temps de finir sa phrase car j'ai juste compris « Mais t'es fou, tu te prends pour !» Et là, j'ai imaginé ce qui pouvait se passer dans la tête de Nico qui devait prendre ce dernier par la tête et lui cogner le crâne contre ce même capot. J'ai vu également un point sortir et atterrir aussi en pleine poire de ce bobo, beaucoup trop sûr de lui. J'ai entendu un craquement, j'ai entendu un cri de douleur et j'ai vu un nez plein de sang. Et Nico de me dire « Bon, c'est bon Mourad, on peut y aller maintenant ». On est donc parti au volant de ce très gros 4x4. Pour le moment, mon ami n'a pas encore été convoqué au commissariat, mais si ça devait arriver, il sera évidemment accompagné de son avocat en ma personne. Assez parlé de ces bobos écolos qui nous prennent la tête. À vous la parole au 01 53 48 3000 pour poser toutes vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui, dès dimanche, fera ses émissions en direct de Doha, Monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Bien.
Pas mal Doha.
Moi, je veux bien aller à Doha. Alors, franchement,
je vous accompagne.
Et voilà. Je vous ai déjà demandé de venir à Doha. Vous n'êtes jamais venu. Mais c'est un peu compliqué en ce moment. C'est surtout cette semaine, c'est cher. Je vous dis tout de suite.
Il paraît.
Benzema, il va jouer ou pas?
Peut-être blessé, en tout cas pas en très grande forme. Mais c'est jamais. Peut-être pas le premier match.
Bon, vous avez regardé les matchs ou pas? Vous faites partie de la polémique, de pas la polémique?
Si j'avais eu même la possibilité sur un plan organisationnel, je serais parti sur place. Mais je me fous royalement de cette polémique. Mais vraiment, Donc oui, des stades climatisés, champions, bah, il faut bien regarder des matchs dans de bonnes conditions. Alors oui, on nous a parlé des personnes qui auraient péri sur les chantiers. On entend 6800 morts. Alors on ne sait pas d'où ça vient, avec un certain nombre d'ONG, a priori bienveillantes, qui vous sortent des chiffres comme ça, mais c'est invérifiable. Donc non, pour ma part, il n'y a pas de polémique. Je vais évidemment... Je ne suis pas un amoureux du foot, mais j'ai toujours suivi les Coupes du Monde. Donc, si Dieu me prête vie, bien sûr, je vais regarder ça assidûment.
Avec popcorn, Maître Serral.
Je m'organise comme il faut. Je suis le bolos du foot, en tout cas de la Coupe du Monde. J'adore ça. Et je vais regarder ça avec mes enfants. Et puis, c'est polémique.
Et le sapin qui clignote, bien sûr.
Ah, alors, je ne l'ai pas encore acheté.
Ah bon?
Si vous voulez tout savoir, je ne l'ai pas encore acheté. Mais ça ne saurait tarder. Et vous savez, comme d'habitude... mon sapin ne devra pas faire en dessous d'un mètre 86, 90. Et là aussi, c'est encore un de ces plaisirs que je m'accorde une fois par an.
Voilà, que vous vous accordez. Et tout le monde sait que le week-end, vous regardez les séries de Noël.
Qui ont commencé au mois d'octobre cette année. C'est extraordinaire. Ça commence de plus en plus tôt.
Mais vous aimez ça, vous ?
Ouais, parce que je me prends pas la tête. Bah, je me prends pas la tête et à chaque fois, à chaque fois que je vois un type, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en vérité est le Père Noël dans ce genre de film. À chaque fois que je vois un type qui joue le rôle du Père Noël, je pense à vous.
C'est vrai.
Voilà, c'est
un travail fou là. Vous savez, en ce moment. Bah,
vous m'accompagnez dans les séries de Noël.
Là, je travaille. Je suis au maximum.
Ah bah ouais, mais là,
je fais trois centres commerciaux par week-end.
Ouais, mais c'est normal.
Voilà, c'est en pleine saison de Noël.
Mais les auditeurs s'en rendent pas compte.
Non.
Je suis sûr
heureusement.
Que vous êtes le Père Noël.
Et heureusement. Maître Serran, on va parler d'un sujet de toujours. Et c'est encore un sujet. Vous voyez, avant que vous me proposiez le sujet, c'est un sujet dont je parlais il y a trois jours avec un ami qui me dit: mais comment est-ce que je fais pour faire venir ma mère en France? Et ça, c'est un sujet qui revient souvent. Beaucoup d'auditeurs, depuis 2 ans, n'ont pas réussi à faire venir leurs parents en France. Alors, est-ce que quelque chose a changé, Maître Serran, dans la procédure? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous expliquez que ce soit si compliqué depuis 2 ans?
Alors, il n'y a rien qui a changé. Le risque, c'est que, avec la réforme qui a été annoncée par le gouvernement, encore une fois, on en avait parlé un peu la dernière fois, c'est à savoir qu'on veut, entre guillemets, favoriser les personnes qui pourraient bénéficier d'un contrat de travail, d'une promesse d'embauche. C'est entre guillemets, on va dire, le côté positif. Le côté négatif de tout ça, c'est que la loi va se durcir pour les autres options qui permettaient de régulariser les uns et les autres. Et vous avez raison, moi c'est une question qui m'est très souvent posée, à savoir comment est-ce qu'on peut faire venir ses parents,
on considère... des parents qui venaient normalement auparavant.
Alors en règle générale, voilà, quand on pose la question, on leur demande toujours: mais est-ce qu'ils venaient régulièrement ou est-ce que c'est la première fois? Et on nous présente la photocopie du passeport et on voit bien que les parents se sont vus accorder X visa, donc ça n'a jamais posé de difficulté. Il se trouve que on a parfois des parents, mais ça on peut l'entendre et le comprendre, c'est-à-dire qui ont un certain âge, qui ont parfois des problèmes de santé, où tous les enfants sont à l'étranger et pour ma part se trouvent sur le territoire français. Donc c'est vrai que les parents qui sont isolés au pays souhaitent légitimement se rapprocher de leurs enfants. La procédure en elle-même, indépendamment du côté compliqué des autorités consulaires, est simple. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il existe un visa long séjour par an à charge d'un ressortissant français. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on lit ça, que si je suis français, si je réunis les conditions qui sont, entre guillemets, relativement simples, c'est-à-dire que justifier de votre nationalité française, c'est pas très compliqué. Justifier que vous avez un domicile suffisamment spacieux pour recevoir vos parents. Justifier, alors ça, c'est ça s'organise un peu à l'avance. Justifier que vous participez à l'entretien de vos parents. Donc il faut quand même à moyen terme, pouvoir justifier que vous versez régulièrement de l'argent à vos parents. C'est-à-dire que l'argument clé dans ce type de situation, quand on veut ce type de visa et de titre de séjour, c'est que vos parents ne sont pas en capacité, financièrement parlant, de se prendre en charge. Donc il suffit pas 2 mois avant la demande de visa de dire bah écoutez, j'ai fait un virement d'un montant de X euros, il faudra justifier que très régulièrement, quand vos parents étaient au pays, très régulièrement, vous envoyez de l'argent à vos parents. En fait, il faut
être soutien, c'est ça?
Voilà, il faut établir effectivement que le terme classique, entre guillemets, soutien de famille, soutien de vos parents. C'est-à-dire qu'il faut justifier que sans votre intervention, vos parents seraient financièrement en difficulté. Et dans ce type de dossier, c'est malheureusement souvent ce qui manque. C'est-à-dire que je reconnais la bonne foi des enfants qui me disent voilà, nos parents sont dans telle situation, on aimerait les faire venir. Et puis c'est vrai que quand on leur dit mais depuis est-ce que vous leur versez de l'argent depuis de manière régulière, et si oui, sur quelle période? Alors très souvent on nous dit quoi? On nous dit bah oui, on leur donne de l'argent, mais j'allais dire c'est de la main à la main, donc ce qui évidemment
on peut pas le prouver.
Non,
dans
on peut cas-là. Pas on peut pas le prouver. Et puis mais c'est comme ça dans tous les domaines du droit. Si vous pouvez pas le prouver, ben on considère que ça n'a pas existé. Donc il faut que ça puisse apparaître. Alors c'est éventuellement en justifiant qu'il y a des virements qui sont faits sur de compte à compte. Vous pouvez également déclarer ces montants que vous avez versés à vos parents sur votre feuille d'imposition. Donc
mais ça c'est déductible.
C'est déductible, mais c'est un travail, j'allais dire de longue haleine, c'est-à-dire ça se règle pas 3 mois ou 6 mois avant de formaliser le projet de faire venir vos parents. C'est-à-dire qu'en vérité à minima, on va dire, on est sur une année où on se dit qu'effectivement l'enfant très régulièrement envoie de l'argent à ses parents, et en gros que ses parents ont besoin de cet argent. Mais ça ne s'improvise pas, on ne fait pas ça 2 mois avant d'engager la procédure. Une fois que vous pouvez justifier de tous ces éléments. Encore une fois, c'est pas très compliqué. Hein. J'ai un domicile, je suis de nationalité française, je verse régulièrement de l'argent à mes parents. Donc, vous pouvez formaliser une demande de visa long séjour, donc parents à charge d'un ressortissant français. Pour être clair, on va dire que dans 90% des cas, les autorités consulaires raisonnent de manière un peu bête et méchante, c'est-à-dire que c'est une disposition qui permettrait à vos parents de rester et ensuite d'obtenir un titre de 10 ans, mais c'est vrai que les autorités consulaires ont pour habitude de refuser, j'allais presque dire malheureusement, quasi systématiquement. Mais autant l'autorité consulaire, encore une fois, qui est une autorité administrative, tout comme la commission de recours contre les refus que vous pouvez saisir si l'autorité consulaire ne vous a pas donné raison, on parle du côté administratif, et puis le côté administratif est entre guillemets solidaire, et en règle générale, le consulat refuse, vous faites un premier recours auprès de la commission, c'est très souvent refusé quand ils font leur boulot. Sinon, il faut savoir que si je vous réponds pas à partir d'un certain délai, au bout de 2 mois, c'est un refus implicite. C'est-à-dire que la commission n'est même pas obligée de vous envoyer un petit courrier pour vous expliquer pourquoi elle estime que vous réunissez pas telle ou telle condition. Mm-hmm. Donc c'est vrai, c'est le côté un peu pénible. Mais pour être tout à fait honnête, il faut savoir que les tribunaux raisonnent autrement. C'est-à-dire que ces dispositions-là existent. C'est-à-dire que si je réunis, moi, les conditions qui sont prévues par les textes, le magistrat ira dans votre sens. Après, les autorités consulaires, il y a un pouvoir, encore une fois, extrêmement large, c'est-à-dire que je peux vous dire non sans raison particulière. D'ailleurs, c'est simple, hein, les formulaires, vous avez des phrases, vous avez des petites croix à mettre, et donc c'est pas motivé comme il le faudrait. À minima, on pourrait, avec 4-5 phrases, expliquer pourquoi, ou peut-être que le dossier a telle ou telle carence. En règle générale, c'est pas ça. Vous avez une petite croix devant une phrase, et puis ça s'arrête là. Donc c'est assez navrant. Mais il faut vraiment ne pas hésiter à contester ce genre de décision. Alors l'inconvénient, c'est quoi? C'est que on considère dans ce type de procédure qu'il n'y a pas d'urgence. Ça signifie que une procédure de référé, qui est une procédure d'urgence, c'est-à-dire qu'on va voir le président du tribunal administratif pour que l'affaire soit jugée rapidement, n'est pas
ça s'applique pas.
Non, ça s'applique pas parce qu'on alors faire venir vos parents entre guillemets sauf si évidemment il y a des problèmes de santé, d'accord, mais là il y a pas d'urgence. Donc la procédure classique dure quand même une année. Donc ça faut le savoir, c'est-à-dire quand ça va vite, un tribunal administratif, en l'occurrence le tribunal administratif de Nantes, rendra sa décision dans un délai de 12 mois.
Donc faut pas être pressé.
Voilà, ce qui est quand même particulièrement long. Mais il y a pas de secret, c'est-à-dire que souvent on me dit ah bah oui, c'est long. Oui, mais alors plus vite on commence et puis plus vite on obtient une décision. Donc il y a aussi cet aspect-là, mais il y a pas de délai plus rapide en la matière.
Bien, on va revenir sur ce sujet dans un instant, Maître Serran. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qui peuvent vous poser des questions. Vous êtes en direct, Maître Serran, tous les samedis. Et nous vous en remercions entre 9h et 10h. C'est au 01 53 48 3000 que vous posez vos questions juridiques. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, vous poserez vos questions à Maître Serran dans un instant au 01 53 48 3000. Un dernier mot peut-être, Maître Serran, sur. On évoquait tout à l'heure, avant la page de publicité, la procédure de référé, qui prend grosso modo un an.
Alors voilà, alors la procédure normale.
Normale.
Référé.
Donc c'est pas un référé.
Voilà, non, le référé, il n'y a pas de. C'est injouable en la matière, mais c'est vrai que la procédure normale. C'est une année. Donc, il ne faut pas s'attendre, quand vous contestez un refus d'attribution de visa et quand la commission, alors, soit a confirmé ce refus, soit la commission n'a pas apporté de réponse. Et je rappelle que lorsque la commission ne se prononce pas dans un timing de 2 mois, c'est considéré comme un refus implicite. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de vous envoyer un courrier. Il faut saisir, j'allais dire, au plus vite, évidemment, le tribunal. C'est ce qui fait que, vous savez, tout ça se planifie. C'est-à-dire que, on a des personnes qu'on reçoit au cabinet qui, encore une fois, qui vous disent, voilà, là, pour cet été, j'aimerais faire venir mes parents et j'aimerais qu'ils restent. Sauf que, ils ont jamais versé d'argent. Alors, virement, c'est-à-dire, où on peut prouver cet aspect-là. Et je le redis, faire ça 2 mois avant, ça ne sert à rien. Et puis faut anticiper le truc, il faut aussi préparer vos parents à un refus de la part des autorités consulaires, pour éviter une déception, et leur dire et laisser entendre que ça se jouera ensuite dans un timing d'une année. Ce qui veut dire quand même que quand vous demandez un visa long séjour et qui vous est refusé, vous imaginez bien que si demain vous demandez un visa court séjour, il va de facto vous être refusé. C'est-à-dire, il y a aussi ce calcul à faire. C'est-à-dire que quand vous avez des parents qui viennent régulièrement avec des visas court séjour, on se dit, bon, à minima, on a au moins ça. Mais si demain, le ou les parents demandent un visa long séjour, donc un visa qui dit, moi, je vais m'installer sur le territoire français, et que les autorités consulaires vous le refusent, vous imaginez bien que demain, et souvent on nous dit, c'est pas grave, je vais demander un visa court séjour, comme ça, ils viendront. Non, vous êtes blacklisté. C'est-à-dire que les autorités consulaires sont pas folles, ils se doutent bien que si vous allez mettre le pied sur le territoire français avec un visa court séjour, vous partirez plus. Donc il y a aussi ce calcul à faire. C'est-à-dire vous faites une demande de visa long séjour, si c'est refusé, oubliez votre visa court séjour. C'est-à-dire que tout va se jouer en vérité sur la saisine du tribunal administratif. Donc c'est aussi un calcul qu'il faut faire.
Pensez pas que vous allez pouvoir rentrer par la fenêtre, quoi.
Ah, c'est encore une fois, c'est injouable. Où souvent on me dit, c'est pas grave, on va demander un visa d'un État Schengen. Il faut savoir qu'évidemment ils sont en réseau. C'est-à-dire que si la France vous a refusé, l'Espagne le sait, la Grèce le sait. Donc vous obtiendrez pas a priori de visa même par l'Espagne ou autre, sauf si vous faites la demande la première fois au niveau de l'Espagne. Mais on peut pas entre guillemets court-circuiter. Lorsque la France vous dit non une fois, tous les pays européens de l'espace Schengen sont informés. Et ensuite, votre visa court séjour, vous pouvez l'oublier. Donc, il faut quand même peser le pour et le contre quand vous.
Enfin, même si on en entend qui disent oui, la France m'a refusé, je suis rentré par l'Espagne.
Oui, mais l'Espagne peut vous laisser rentrer comme touriste. Mais si vous demandez un visa long séjour, un visa d'installation, ça pose difficulté.
Oui, mais si on vous a refusé votre visa long séjour, vous pouvez toujours demander un court séjour par l'Espagne.
Bien sûr, mais c'est assez classique. Vous demandez un court séjour par l'Espagne, et vous venez ensuite sur le territoire français. Le truc, c'est le problème va se poser à quel moment ? Le problème va se poser au moment où... alors sauf si vous voulez rester entre guillemets en situation irrégulière ad vitam aeternam, mais on a beaucoup de clients qui entre guillemets ont essayé, pardon pour le terme, mais de faire les malins. Sauf que la personne arrive sur le territoire français, elle a un visa court séjour espagnol, italien, peu importe, mais elle veut rester. Pour rester, il faut forcément un titre de séjour. Le titre de séjour, vous allez le demander à qui ? Aux autorités préfectorales. Les autorités préfectorales verront bien qu'un jour le consulat français vous a refusé. Je peux vous assurer qu'il faut quand même ramer pour que la France, en gros, dise « D'accord, vous avez fait le malin, mais on va être sympa avec vous, on va vous donner un titre de séjour. » Donc, il y a quand même des conséquences à moyen ou long terme. Alors, immédiatement, on est content de mettre le pied sur le territoire français via l'Espagne. Ça, je peux l'entendre et le comprendre. Mais c'est une satisfaction à très court terme. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Alors, soit vous acceptez de repartir au pays, mais pour ceux qui veulent rester... et qu'on, entre guillemets, essaie de squeezer les autorités françaises et qui sont passées par l'Espagne, l'Italie, peu importe, au bout d'un moment, il faudra bien expliquer aux autorités préfectorales comment vous êtes venu sur le territoire français.
Avec un bon avocat, vous appelez Maître Serran. Sarah est au 01 53 48 3000. Sarah, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Sarah.
Alors j'avais une question. J'ai mes beaux-parents qui sont au Maroc. Et je souhaitais les faire venir et faire une demande de long séjour. Ma question, mes beaux-parents, en fait, ont 3 enfants. 2 sont au Maroc et ont la possibilité de subvenir à leurs besoins. Et mon mari est en France. Et c'est lui qui les prend en charge, en fait.
Les enfants de vos... Alors, pardon, les enfants de vos beaux-parents, oui. ils ont quel âge ? Ils sont tous majeurs ?
Non, ils sont adultes.
D'accord, adultes, ok. Donc, on parle évidemment, enfin, dans ce que vous êtes en train de me dire, de faire venir que les beaux-parents. On oublie les enfants,
oui,
on est
non,
d'accord.
Non.
D'accord.
En fait, mes beaux-frères ont des situations qui leur permettent de subvenir aux besoins des beaux-parents.
Ils sont déjà venus sur le territoire français ?
Oui.
Est-ce qu'ils, en tout cas, les enfants des intéressés peuvent justifier qui participent régulièrement en versant de l'argent à leurs parents ?
Oui, mon mari envoie régulièrement, mensuellement, une somme d'argent.
D'accord, alors voilà, si vous avez suivi l'émission, c'est ça qui évidemment va être important.
Donc,
alors pareil, ensuite, demain, s'ils sont sur le territoire français, il y a de quoi les loger, on va dire, décemment, il n'y a pas de problème là-dessus ?
Non, aucun problème.
Bon,
ils résideront chez nous.
D'accord, voilà, mais il y a, enfin, à minima, ils ont une pièce pour eux, enfin, ils ont une chambre à coucher,
oui,
voilà.
Oui.
Bon, alors c'est évidemment un élément qui est pris en considération. De ce que vous me dites, madame, les éléments sont réunis. Ensuite, il va falloir solliciter un visa long séjour, mais avez bien compris que, pour être clair, les autorités consulaires françaises sont très réticentes, même quand les conditions sont réunies. Donc c'est ça qui est un peu pénible, mais sont très réticentes à remettre ce type de visa. Ce qui veut dire que si c'est refusé, encore une fois, contestation devant la commission de recours contre les refus de visa, éventuellement un tribunal administratif. Mais ça signifie quand même que pendant toute cette procédure... si les beaux-parents se disent bon, en attendant que cette procédure aboutisse, on aimerait bien venir quand même en qualité de entre guillemets de simple touriste,
oui,
même un visa court séjour leur sera refusé.
Alors, est-ce que lorsqu'on demande un court séjour et que les personnes viennent en France, est-ce que sur le territoire national, on peut faire une demande de régularisation ?
Le truc, c'est que si je demande un visa court séjour, c'est par définition pour un court séjour. C'est-à-dire que je suis un touriste. Je viens voir ma famille, je peux visiter un peu le pays et puis je repars. Alors évidemment, on a beaucoup de personnes qui restent sur le territoire français, le visa est expiré et puis qui nous disent j'aimerais demeurer à plein temps en France. La procédure existe. Il n'est pas interdit, évidemment. Alors là, ça ne relève pas des autorités consulaires, mais ça relève voilà, de la préfecture du lieu de domicile. On a beaucoup de procédures de cette nature. On saisit les autorités préfectorales. Mais ce ne serait pas sérieux de vous dire que la préfecture voit ça d'un œil tranquille. Bon, c'est-à-dire que, bah oui, on considère que on a, entre guillemets, trahi le contrat qui était passé avec les autorités françaises. Voilà, vous me dites que vous venez comme touriste, et puis à la fin, vous toquez à ma porte pour me dire « j'aimerais un titre de séjour parce que je veux rester ». Donc souvent, ça se passe comme ça. Alors je dis pas que c'est bien, sauf que parfois on peut le comprendre, puisque c'est ce qu'on se disait. Les autorités consulaires françaises sont pas très généreuses pour l'attribution de visas long séjour. Donc, alors pardon pour le terme, mais parfois on essaie de les squeezer de cette manière, en disant bah tant pis, ils jouent pas le jeu, et ben on jouera pas le jeu non plus. Ce qui veut dire quand même que lorsque les parents sont sur le territoire français, alors même chose, la probabilité pour que la préfecture spontanément dise oui, ok, c'est oublié, on va vous donner un titre de séjour, elle est infinitésimale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préfecture a priori dira non. Pareil, saisine du tribunal administratif, ce qui veut dire quand même que pendant ce laps de temps, les parents sont en situation irrégulière. Voilà, bon, on est dans un pays où on n'envoie pas non plus la police au domicile pour dire, attendez, vous devez partir, voyez, il faut aussi raison garder. Donc, on va pas les pourchasser, c'est une réalité. Mais ils pourront pas retourner au pays, voyez, en particulier si vous avez des enfants ou si demain il se passe quelque chose de grave. Alors, ils pourront retourner au pays, mais pas revenir. C'est-à-dire que la France vous laisse repartir au pays, il n'y a pas de difficulté, ils seront même ravis. Mais ensuite, vous êtes évidemment, définitivement blacklisté.
Voilà.
Donc ça, faut le savoir. L'inconvénient, c'est aussi cet aspect-là. Malheureusement, voilà, dans la vie de tous les jours, et ça m'est arrivé au cabinet, où vous avez des personnes qui perdent un proche, et qui pose la question à l'avocat en disant bon voilà, il y a c'est un père, c'est une mère, est-ce que je peux aller au pays? Alors oui, évidemment qu'on peut y aller, mais après on ne revient plus. Voilà, donc ça faut le savoir. Donc c'est quand même un pari sur l'avenir. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a cet aspect-là. Maintenant oui, beaucoup de personnes demandent un visa court séjour, viennent sur le territoire français et entre guillemets se maintiennent.
D'accord. Et le point en fait que je voulais aborder, c'est sur le fait que mes parents ont des fils qui ont de bonnes situations au Maroc. Est-ce que ça, c'est un point qui peut...
Bah non, s'ils ont des bonnes situations au Maroc, on dira bah qu'ils restent au Maroc. Non, quand je parle de bonnes situations, je parle de bonnes situations, voilà, hein, on est d'accord, d'enfants de nationalité française et qui bosse sur le territoire français.
Enfin, si vous justifiez que vous envoyez régulièrement de l'argent à vos parents, ça rentre pas en ligne de compte? Parce que là, vous disiez tout à l'heure, Sarah, que votre mari envoyait régulièrement de l'argent à ses parents.
Oui, mon mari envoie de l'argent, mais mes beaux-frères sur place ne participent pas.
C'était ça la question.
Ah oui, d'accord.
C'est ça la question.
Bien sûr. C'est-à-dire que la chose importante, c'est ça. C'est dire, est-ce que celui qui est prêt à accueillir les uns et les autres, est-ce qu'il se manifeste à la dernière seconde, ou alors est-ce que de manière pérenne, il verse régulièrement de l'argent? Après, d'accord, j'avais pas compris le sens de votre question, mais qui est des enfants qui gagnent très bien leur vie au pays, effectivement, pour leur dire, attendez, vous avez des enfants qui gagnent bien là-bas, bah restez là-bas. Ce qui est pris en considération, c'est justement le fait de dire, bah, comme dire, s'ils avaient de très bonnes relations avec ces enfants-là, ils ne seraient pas en train de demander l'aide d'une personne qui demeure sur le territoire français. Donc, à partir du moment où vous justifiez de virements réguliers depuis un certain temps, c'est jouable.
Un certain temps, vous disiez un an.
Ouais, il faut, c'est un délai raisonnable.
Voilà, Sarah, ce que Maître Sahan pouvait vous dire ce matin.
C'est parfait, vous avez répondu à ma question.
Ah, vous imaginez la tête de Maître Sahan,
il est
illuminé.
Oui, mais je suis éternellement illuminé et radieux.
Bien, merci Sarah.
Merci Sarah.
À Toulouse, merci. Allez, d'autres appels et d'autres questions à Maître Sahan dans un instant, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. AVS revient dans un instant.
Ah, c'est un court instant, parce qu'on est déjà là. Maître Sahan est avec vous tous les samedis, vous le savez, nouvelle Nouvel horaire, hein, Maître Serran, vous êtes là avec nous le samedi matin. Vous avez consenti à sacrifier une partie de votre week-end. Et à noter que Maître Serran travaille le samedi. Donc, si vous voulez avoir des rendez-vous avec Maître Serran, le samedi...
N'hésitez pas, hein, puisque de toute manière, je me lève de bonne heure, je suis à la radio, autant qu'il est directement au bureau.
Ça se fait pas, ce que je fais, Maître Serran. Afida est là au 01 53 48 3000. Afida, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Afida.
Bonjour Afida.
Bonjour, moi j'avais une petite question par rapport à l'examen de nationalité française qu'on avait fait pour mon père il y a quelques temps.
Alors, Afida, est-ce que peut-être avez-vous le kit main libre ou le haut-parleur?
Non, j'ai ni le kit main libre ni le haut-parleur.
Bon. Alors on va essayer de vous écouter. Ouais. Allez-y.
Donc, je vous disais, c'était par rapport à une demande de nationalité qu'on avait faite pour mon père.
Oui.
Et en sachant que mon père est là depuis les années 60, hein, il a travaillé toute sa vie, il a été retraité, etc. Et récemment, donc, on a voulu faire la demande de nationalité en sachant que tous ses enfants ont la nationalité française, que ma mère également. Mmh. Voilà. Et donc, on a fait le dossier. Il est allé à l'entretien. Et quelques temps après, on reçoit un courrier de refus. Et sur le courrier, alors c'est ce qui m'a vraiment contrarié. Il y avait énormément de mensonges, en sachant qu'il disait que, en gros, mon père ne connaissait pas les présidents actuels, le nom des ministres. En fonction, ne connaissait pas le relief de la France, c'est-à-dire ni les mers qui bordaient la France, ni les montagnes, etc. Enfin bref, c'était une aberration. Donc moi, je sais, je connais mon père, c'est lui qui nous a éduqués, c'est lui qui nous a transmis les valeurs de la France, etc. Parce que dans les questions, il y avait aussi l'idée que mon père ne connaissait pas ce que voulait dire la Marianne, voilà, les symboles de la République. Enfin bref, il y avait énormément d'aberrations. Donc moi, connaissant mon père, donc je vous dis puisque c'est lui qui nous a éduqués et que je sais qu'il est branché H24 sur une radio que je ne citerai pas, ce n'était pas la vôtre. Il était.
Alors là, si c'est pas nous, est-ce que Maître Serran va vous répondre?
À raccrocher.
Non,
vous inviterez votre père à nous écouter plus souvent.
Il écoute France Culture.
L'idée, c'est qu'il n'écoute pas de musique. Donc c'était plutôt branché sur les informations. Donc tout ce qu'on lui reprochait, c'était invraisemblable. Donc moi, je me suis permise d'écrire un courrier. Sauf que dans le courrier, je n'ai jamais eu de retour. Donc j'ai cherché à contacter cette personne, le service. Et donc, finalement, j'ai réussi un jour à avoir cette personne-là. Donc, je lui répète ce que je suis en train de vous dire avec le courrier sous les yeux. Et donc, la dame me dit en boucle, « Madame, je vous explique que monsieur n'a pas réussi à répondre à ces questions ce jour-là. » Et je lui dis, ce n'est pas possible, donc je le répète encore. « Madame, je vous explique que monsieur, ce jour-là, a été incapable de répondre à ces questions. » Donc voilà, moi je lui dis, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un enregistrement? Puisque normalement, moi d'après ce que j'avais cru comprendre, on enregistrait ce genre d'entretien. Elle me dit que non. Voilà. Donc là, je suis un petit peu à court d'idées et je ne sais pas.
Alors, quand on vous a notifié le refus, on a dû vous notifier également les voies de recours. Je suis pas d'accord avec ça, et donc je vais saisir un tribunal pour contester. Donc sur la décision de refus, il y a forcément en bas de page ou sur.
Courrier, non, ça ne dit rien justement. Sinon, je sais que je l'aurais déjà fait. Mais
alors, c'est ce que vous dites est intéressant parce que dans l'hypothèse où cette mention de recours n'apparaît pas, le délai qui normalement est imparti, donc vous avez un mois pour saisir le tribunal administratif, ce délai-là, on considère qu'il ne court pas. À charge aussi pour vous de prouver que ce recours ne vous a pas, enfin que les voies de recours ne vous ont pas été notifiées. Et ça se prouve avec l'original du courrier qui vous a été envoyé pour vous dire, voilà pour quelle raison on refuse. Maintenant, ce que vous dites concernant votre père sur ces fameuses questions de culture générale, de politique ou autre, c'est assez fréquent. Et j'ai souvent, moi, la même réaction de la part des personnes qui ont été déboutées, qui me disent « mais je comprends pas, l'entretien s'est passé correctement, la personne était très sympathique, j'ai répondu aux questions ». Alors parfois, ils reconnaissent une non-réponse à une ou deux questions, ce qu'on peut comprendre.
Oui,
mais quand on lit le compte-rendu de l'administration, les clients sont surpris en disant « mais c'est n'importe quoi, la personne ment ». Alors la difficulté, c'est que on a le responsable qui va vous poser des questions, vous avez l'intéressé qui est concerné, mais on n'a pas de témoin, c'est-à-dire que c'est un tête-à-tête qui se fait. Et c'est vrai qu'on est obligé de prendre pour argent comptant ce qui est indiqué, ce qui est écrit. Alors est-ce que ces administratifs ont pour habitude de mentir? Moi, je constate que souvent mes clients, encore une fois, reconnaissent parfois ne pas avoir répondu à une ou deux questions, mais me disent, moi, sur le reste, j'y ai répondu. Et c'est d'autant plus que qu'on se prépare à ça. Il y a un petit livret avec les questions-réponses. Donc c'est vrai qu'on se prépare.
Et qu'en plus, les questions étaient très simples. Et franchement, c'est vraiment une aberration. Et c'est scandaleux d'avoir des fonctionnaires de l'État qui procèdent comme ça.
Ouais, alors, voilà, je ne veux pas généraliser. Ce ne serait pas sérieux de dire que tous les fonctionnaires se comportent de cette manière et mettent en avant cette mauvaise foi. Ce ne serait pas sérieux, mais... Malheureusement, mais je crois que c'est comme dans toutes les administrations, dans toutes les professions, vous tombez parfois sur des canards boiteux et qui profitent de ce système qui est assez mal foutu, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de tierce personne qui viendrait attester que ce que déclare l'administratif est forcément vrai. Voilà, on va considérer que, vous savez, c'est comme au pénal. Quand
il n'y a pas d'enregistrement.
Non, il n'y a pas d'enregistrement, mais au pénal, si vous vous embrouillez avec un policier, le policier est sous serment. C'est-à-dire que quand il dit un truc, c'est forcément vrai. Ou alors, il faudrait le filmer en train d'avoir fait quelque chose de pas bien. Là, c'est pareil. L'administratif, on considère que s'il dit que monsieur n'a pas répondu à 3, 4, 10 questions, eh ben, c'est que monsieur n'a pas répondu à ces questions-là. Donc, c'est assez pénible, mais encore une fois, ça se conteste. Je le redis.
Je veux bien que quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a passé quelques années, etc., ici, échoue à cet entretien. Mais quand même, moi, je vous dis que mon père est là depuis 1960. Il lisait très bien.
Ouais, j'entends bien.
Hein, mais il parlait français. Donc, vous voyez.
Mais vous savez, vous pourrez toujours, entre guillemets, vous torturer l'esprit de cette manière que ça n'y changerait rien. C'est-à-dire le fait même d'avoir réussi à pister la personne qui. De manière régulière vous apporte la même réponse ou à part vous énerver, vous avez bien vu que ça n'apportait rien de constructif et de positif. Donc ensuite, madame, même si tout ça est navrant, il faudra évidemment sous réserve des délais qu'on est en train d'évoquer
pour les
voies de recours, vous pouvez encore une fois saisir le tribunal administratif, mettre en avant effectivement tout ce timing passé.
On peut demander à repasser le...
Non, on peut pas demander à repasser l'épreuve entre guillemets. Par contre, vous savez, c'est toujours aussi intéressant de d'être présent dans ce cas-là avec son client à l'audience, ne serait-ce que pour qu'il voit que votre client entre guillemets parle français correctement, a aussi une certaine culture. Donc ça se jouera peut-être là-dessus. Mais ce que vous me dites là, voilà, est assez habituel, effectivement, souvent. On a des refus qui sont contestés. Les voies de recours vous ont été notifiées. C'est-à-dire que si on considère que je vous dis non, mais que ça apparaît et que les voies de recours ne sont pas respectées, c'est terminé. Donc ça s'arrête là, vous ne pouvez pas contester. Rien n'interdirait de reformuler une nouvelle demande. Vous voyez, vous n'êtes pas condamné ad vitam aeternam. Votre père pourrait redéposer un nouveau dossier, mais bon, vous avez vu comment ça se passe. C'est long déjà pour que sur le plan administratif, on prenne ça en considération. Donc, si les voies de recours vous ont été notifiées, c'est terminé.
D'accord, moi je vais revérifier, mais en tous les cas, là, pour le coup, ça ne me dit absolument rien, sinon je l'aurais déjà fait.
Prenez à Fida le numéro de téléphone de Maître Serran, hein, vous pourrez l'appeler hors antenne. Maître Serran, merci de redonner votre numéro pour tout le monde.
Beaucoup. Alors, joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Merci Afida pour votre question. On suivra le dossier de votre papa, Maître Serran. Vous revenez samedi prochain.
Alors, si l'Algérie gagne son premier match à la Coupe du Monde, oui.
Oui, et sinon, on fera ça comment? On fait 2 heures avec l'imam.
Éventuellement.
C'est ça.
Ouais. Mais si l'Algérie gagne, je prends aussi la place de l'imam. On est d'accord. On fait ce pari-là. Alors,
pour d'autres raisons. Bien, en parlant de l'imam Abdelali Mamoun, il est là dans un instant pour l'islam, l'islam en présence sur Beurre FM. Maître Serran, à samedi.
À samedi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.